Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 878 d'Invino. Depuis la création de l'émission en 2004, comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Et vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 999.99. Et on peut se retrouver sur la page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le domaine Les Aurels, le vin de Madrid, Éric Dupond-Moretti, le vrai, version Bacchus. Et puis un zoom cette saison sur les vins nouveaux à mes côtés, Hélène Thiot, David Cobol et Philippe Forbrack. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer cette émission, c'est le Vino Quiz avec vous, David Cobol.
Donc le principe est simple, chaque semaine nous posons une question sur le vin et vous, si vous répondez bien, vous avez une chance de gagner un très beau cadeau, par exemple le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux.
Très joli cadeau.
Très joli cadeau et puis on a, chaque fois ça change. Alors la question de la semaine dernière fut, le champagne de Saint-Gall propose une nouvelle gamme qui se nomme option A, influence, option B, artifice et option C, bulle de douceur. Voilà, la bonne réponse était la première, influence.
Cette semaine.
Alors, nouvelle question. En honneur de qui Éric Dupond-Moretti, le célèbre avocat et aussi grand amateur de vin, a-t-il nommé sa cuvée Prestige parce qu'il est également vigneron? Option A, Furberet, c'est-à-dire son animal de compagnie d'enfance. Option B, Furberet, feu son ami et mentor. C'est la même chose. Hein. Option C, Tintin, sa bande dessinée préférée.
Voilà, ce qui est donc David.
Alors, pour répondre, vous savez comment faire.
Il faut écouter l'émission déjà.
D'abord, il faut écouter l'émission. Ensuite, vous allez sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, et puis le gagnant sera tiré au sort.
Merci beaucoup David Cobol. Invino Sud Radio accueille un premier invité, Basile Saint-Germain, vigneron au domaine Les Aurels. Bonjour Basile.
Bonjour.
Alors racontez-nous un peu votre domaine, votre vignoble. C'est une affaire familiale et c'est lui depuis quand?
Non, c'est une création en 95. J'avais fait mon stage à Château-Latour avant où j'ai rencontré mon épouse.
Que l'on salue. Quel est son prénom d'ailleurs?
Caroline.
On l'embrasse Caroline.
Et 7 ans après à Cognac, on a décidé de repartir sur un projet personnel. Et donc j'ai passé 4 ans à chercher un terroir. Avec un clin d'œil du côté de Pézenas.
Et alors, pourquoi Pézenas? Pourquoi Pézenas?
En 94, on ne parlait pas du Languedoc. Et c'était pour moi une page blanche. Et ce défi de la page blanche, cette possibilité potentielle de pouvoir tout faire, était une chose qui m'intéressait beaucoup. L'accessibilité aussi, parce que...
Un peu le soleil, non, Basile?
Non, je ne suis pas un amateur...
Bon, le temps clément, en tout cas.
Il n'est pas toujours si clément que ça, surtout pas ces derniers temps.
Il y a eu des torrents depuis, récemment.
Oui, c'est vrai.
Alors, vous êtes effectivement, Basile, à Nizas, juste au-dessus de Béziers.
Juste au-dessus de Pézenas.
Alors, combien d'hectares de vignes
8 hectares et demi.
8 et demi, c'est ça, essentiellement.
Et beaucoup
rouge,
de pâté, non? Beaucoup de pâté?
Ça, c'était au début, après je m'en suis un peu lassé.
Oui, le pâté de Pézenas, c'est délicieux, mais bon, ça va un temps. Près de 9 hectares de vignes, essentiellement en rouge, c'est ça?
Essentiellement un hectare en blanc.
Voilà. Avec de tout petits rendements.
Tout petit.
C'est combien petit? Oui, c'est petit.
Un peu moins que ça aussi.
Moins que 20 hectolitres, d'accord. Et puis un travail sans engrais, sans désherbant, sans pesticides. Et vous précisez dans vos fiches techniques que la teneur en sulfite est inférieure au seuil de la biodynamie.
Oui, histoire de cadrer un peu dans cette mouvance de tous les vins qui apparaissent, vins nature et autres.
Vous en pensez quoi d'ailleurs de façon générale, vegan, biodynamie, tout ça,
Je suis en biodynamie.
C'est un vrai choix.
Mais vous n'êtes pas certifié, je crois. Hein.
Non, on n'est pas certifié parce que je n'ai pas écouté mon épouse il y a 20 ans quand elle m'a dit de me lancer dans la certification en bio. J'aurais dû le faire, mais...
C'est trop tard aujourd'hui?
Je n'ai plus envie.
Ah, vous n'avez plus envie? Pourquoi?
Je n'ai plus envie parce qu'aujourd'hui, on vend de l'AB, on ne vend pas une éthique.
Ouais.
Pour moi. Ouais. C'est devenu très commercial, c'est peu contrôlé, c'est pas suffisamment sérieux.
Sur la biodynamie, c'est peu contrôlé?
Sur la bio, sur l'AB.
D'accord.
Oui.
Il y a quelques éléments qui me gênent là-dedans et qui ne vont pas assez loin. Je pense que tout a été fait il y a fort longtemps, on l'a senti dans les années 80 déjà, que l'industrie s'était mise un peu dans cette option de tirer l'AB vers le bas, et elle y a réussi.
Bon, très bien.
Est-ce que parmi les choses que vous reprochez, c'est l'absence de contrôle du produit fini? Parce que ça m'a toujours choqué qu'il n'y a aucun contrôle sur le contenu du vin dans la bouteille.
Absolument. Et c'est pour ça que depuis 2005, je donne une garantie. Je fais analyser tous mes vins avant la mise en bouteille.
Bravo.
Par Excel, donc sur un spectre très large, 140 molécules, sur des doses extrêmement basses, en microgrammes, alors que la répression des fraudes est encore au milligramme, c'est-à-dire 1000 fois,
bien sûr,
pas soi, et pour donner une vraie garantie aux gens. Parce que moi-même, je voulais savoir ce que d'éventuels collègues autour de moi me laissaient dans mes vignes. C'était ça qui était important.
C'est QFD, Hélène.
Est-ce que du coup, on peut qualifier vos vins de vins nature?
Non. Non, parce que ça n'existe pas, c'est un terme inapproprié.
Absolument,
le vin,
d'accord,
par définition, est une transformation humaine, donc il ne peut plus être nature. C'est un abus où, moi qui suis...
Une erreur de langage, en tout cas.
Oui, voilà, moi qui suis frontalier et qui ai toujours été mauvais en français, je trouve que les mots sont importants. Et que là aussi, il y a des dérives qui ne sont pas forcément...
Mille fois d'accord avec ça.
Eh bien David, d'ailleurs, ça fait quand même trois fois que vous êtes d'accord avec la même personne.
Non, mais bravo. Hein.
Et
bravo.
Puis on ne parle jamais, on parle toujours du sulfite, qui aujourd'hui, la France est quand même un pays qui a beaucoup, beaucoup baissé ses sulfites par rapport aux autres pays qui nous entourent.
Hein. Oui.
On est sur des seuils beaucoup plus bas qu'ailleurs. Que ce soit conventionnel, tous les vins, hein, je parle de tous les
bien
vins.
Bien sûr.
Et on oublie toujours de parler d'une chose qui est autrement plus dangereuse, ce sont les histamines. Et dans des vins nature, on peut avoir des doses d'histamines qui sont autrement plus toxiques.
Toxiques, oui. Quoi. On va revenir à votre gamme de vos vins, Basile. Un petit mot, donc vous avez différentes couleurs, c'est ça?
J'ai juste un blanc.
Et un blanc, d'accord.
2000 bouteilles et deux rouges.
Et deux rouges, quoi. Pas de rosé?
Non.
Vous n'avez pas cédé à la tentation, à la mode du rosé?
Non, je ne sais pas faire. Et on ne touche pas.
C'est bon, ça, quelqu'un qui dit je ne sais pas faire. Parce qu'il y en a plein qui ne le disent pas.
C'est très technique.
Mais bravo, en tout cas. Et alors, on peut les acheter où, vos vins?
On peut les acheter chez de bons cavistes, voilà.
Donc, votre circuit de distribution, parce que vous produisez combien de bouteilles, soit pas de 6
000. On produit 18 000 bouteilles.
Oui, donc c'est
tout à fait confidentiel.
Et c'est uniquement en France ou on peut les trouver également ailleurs, quoi?
Non, vous parliez tout à l'heure de la Chine, c'est mon premier impact.
Votre premier acheteur, quoi, c'est les Chinois, quoi.
Non, pour... c'est un Chinois.
Ah, c'est un Chinois, le premier acheteur. Bon, le salut, monsieur Li, on l'embrasse. Alors, pour terminer, Basile, dites-nous, ce qui est important aussi dans une bonne bouteille, c'est le bouchage, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Avec qui vous travaillez, alors?
Alors, moi, depuis que je travaille avec Diam, c'est-à-dire depuis 2005, et sur la totalité de la gamme depuis 2008, je dors enfin tranquille, et surtout, je ne vole plus mes clients. Voilà.
C'est QFD, c'est magique. Beau témoignage, ça. Merci en tout cas, mon cher Basile. Merci également à vous, Hélène. Une vidéo Sud Radio retrouve Philippe Forbach pour une petite balade à Madrid. Mais alors, juste avant, on part en Chine.
On part en Chine, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, y était il y a quelques jours. Et il a rencontré son homologue chinois, Xi Jinping. Et ils se sont réunis autour de...
Bien prononcé, là. Hein.
Ils se sont réunis autour d'une bonne bouteille de vin français. Alors déjà, il lui a fait un beau cadeau, puisqu'il a offert une Romanée Conti 78.
Ah, ça,
bon,
ça va,
c'était
quoi.
Déjà... Bon. C'était,
c'est nous qui l'avons payé.
Un certain sourire. Exactement.
Mais l'argent reste en France, David, alors c'est bien.
Oui, en tout cas, c'était un beau cadeau. Mais ce qui était plus pertinent, pour moi, en tant que président des sommeliers de France, c'est très heureux que l'ambassade de France appelle un jeune sommelier français originaire d'Alsace, qu'on connaît bien en France, qui s'appelle Jean-Marie Pratt.
D'accord.
Et qui vit en Chine depuis un certain nombre d'années. Ils l'ont appelé pour savoir s'il était disponible pour venir, on ne lui a pas dit pour qui, mais organiser une dégustation pour des personnalités réunies.
À Pékin.
Exactement. Et donc, il a accepté. Et quand il était sur place, on lui dit, voilà, vous allez recevoir le président de la République française et le président chinois. Et vous allez leur faire une dégustation.
Oh, c'est extraordinaire.
Donc il a préparé les trois vins.
On
lui a dit le temps qu'il fait à l'avant pour qu'il prépare. Donc
d'accord.
Il a goûté les vins, il les a conditionnés juste avant qu'ils arrivent. Et ensuite, trois vins. Un vin de la maison Latour en Bourgogne, c'est un Corton.
Oh,
un château de l'Hospitalet de Gérard Bertrand.
Moins bon, ça.
Et un cheval blanc. Et également, ça vous appartient, monsieur.
Et le troisième
comme type de commentaire. Et un cheval blanc dans
excellent.
L'usine de
Non, ce qui est bien, c'est qu'il y avait trois
jolis
régions.
Vins.
Ouais,
trois jolis vins, trois personnalités un peu emblématiques du vin français, et le Languedoc aussi. Et il a eu l'obligation de regoûter toutes les bouteilles devant les deux présidents, de manière à pouvoir garantir qu'il n'y avait pas de problème dans ces bouteilles, à tous les niveaux.
Pas de cyanure, pas de strychnine.
C'est l'obligation de goûter les bouteilles devant eux.
16 revenait parmi eux.
Et ensuite, ils devaient normalement de goûter un vin, et on commentait un, et finalement, ils sont restés suffisamment longtemps pour qu'ils commentent les trois, ce qui était une belle preuve de rôle d'ambassadeur, finalement.
Ah, c'est génial, quoi.
De la sommellerie française.
Et puis c'est super de la part de Macron aussi, parce qu'enfin, un président fier de vos produits.
Une très, très belle démarche. Alors, je vous amène... fait un petit voyage plus près de chez nous.
Alors, direction
Madrid,
Prado.
Exactement, parce qu'on parle souvent de cette capitale, on parle de football notamment, on parle de plein de choses en Espagne. Et il y a une appellation contrôlée qui s'appelle Vin de Madrid, ce qu'on ne connaît pas toujours. Elle n'est pas très vieille, puisqu'elle date des années 80, mais ça commence déjà un peu à faire.
Par rapport au vin de Paris, c'est comment?
Par rapport au vin de Paris, qui n'existe pas encore. Voilà. Mais il y a des velléités à produire aujourd'hui de vin d'Île-de-France. Et il y a de plus en plus de vignobles qui s'installent.
Qui serait pas étonnant, Philippe, non, ce serait pas
étonnant. Oui, la winerie parisienne, d'ailleurs, juste un petit clin d'œil, hein, est en train d'organiser une cape d'unification au premier étage de la Tour Eiffel, avec la possibilité pour les Parisiens ou les visiteurs de la Tour Eiffel de venir voir comment on fait du vin, comment on l'élabore,
super,
comment on fait
vieillir.
Donc c'est très éducatif. Et ils vont monter plus tard un bar à vin de dégustation des fameux vins de la winerie parisienne. Ils ont planté aujourd'hui, je crois, 11 hectares et il y a un projet d'une plantation de 13 hectares supplémentaires.
Du côté de Versailles.
Effectivement, du côté de Versailles. Pour revenir à Madrid,
oui,
grande capitale, il y a quand même 12 000 hectares de vignes, c'est pas banal, je veux dire, c'est l'Espagne, donc il y a du volume.
Moi j'ai goûté de bonnes choses.
Grand vignoble, c'est entre 600 et 1000 mètres d'altitude, donc l'altitude aide aussi à avoir une certaine fraîcheur, le climat est bien sûr très continental, la géologie elle est plutôt d'origine granitique, mais il y a également des sables et des argiles. Les cépages utilisés sont, les cépages, il y en a beaucoup en Espagne d'origine, le grenache, le fameux Tinto Fino, qui s'appelle également le Tempranillo, mais ils ont évité un peu de Syrah, un peu de Merlot et de Cabernet. Ça, c'est, la tentation est grande, hein, dans ces pays-là. C'est un peu dommage, hein, parce que finalement, ils vont bien dans leur pays d'origine. Mais ils en ont un peu aussi. Et en blanc, par contre, ils sont restés très locaux. Le Malva, l'Airen et le fameux Albio, qui est un cépage blanc avec une très jolie acidité. On évoque toujours l'époque romaine pour ces vignobles, mais c'est l'actualité qui est intéressante, avec de très jolis domaines. Par exemple, la bodega Marenones, qui est un vignoble en agriculture biologique, on l'a évoqué avec ses limites, mais ça mérite d'être souligné néanmoins. Notamment son blanc, le Picarana, qui tient le nom d'un oiseau qui vit dans les collines des environs, est franchement très intéressant.
Un ou deux vignerons peut-être sympa.
En plus de ce domaine que je viens de citer, le Marquès de Grinon, et notamment le vin de Pagos, sur le mont Tolède, qui est une des montagnes qui
Pagos
entoure.
Pagos étant un site viticole.
Exactement.
Unique.
Et puis, moi, au Bistrot du Semenet, par exemple, on travaille avec Navarreros, du domaine Bernavella, avec un grenache à 100% en blanc, qui est vraiment remarquable également, et que mes clients apprécient particulièrement.
Merci beaucoup, Philippe Aubrac. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec Éric Dupont-Moretti, le célèbre avocat qui nous parlera non pas de droit, mais de sa passion pour le vin et la gastronomie.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Invino Sud Radio, le retour. Nous sommes chez le caviste Nicolas à Paris pour cette émission en public et délocalisée en présence d'un nouvel invité, Maître Dupont-Moretti. Bonjour Éric.
Bonjour Alain.
Alors on connaît l'avocat, pénaliste, l'auteur à succès, l'acteur, mais pas forcément le vigneron. Racontez-nous, vous et le vin, jusqu'à ce coin perdu de France dans le Roussillon.
C'est d'abord une belle histoire d'amitié, comme souvent d'ailleurs les histoires de vin. Je me promène en Belgique, à Bruxelles, et il y a un jeune homme qui m'aborde, qui me parle avec un accent curieux, un mélange d'accent belge et d'accent catalan, et il me dit, car il est catalan, installé en Belgique, je suis avocat au barreau de Bruxelles, et j'ai voulu faire ce métier parce que je vous ai entendu plaider avec Alain Furbury. Et Alain Furbury, c'est mon maître et mon mentor. Il nous a quittés en 99. C'était un avocat toulousain qui adorait le vin. Et donc, on papote un peu, on évoque des souvenirs communs, le temps passe. Et puis, Olivier Martins, c'est son nom, m'appelle. Il me dit, il y a un petit bout de vigne à vendre près de Collioure. Bingo.
Vous connaissez la région, pas du tout?
Non, je connaissais la région. J'avais plaidé à très nombreuses reprises à Perpignan.
D'accord.
Et donc on a acheté 3 hectares et demi de vignes, cépage grenache, évidemment. Et puis on a décidé de faire du vin, et quand il s'est agi de lui donner un nom, on l'a appelé Furbury, naturellement.
Naturellement. Donc là vous êtes en Collioure blanc, en Collioure rouge, et donc c'est des vins qui sont de plaisir immédiat, qui peuvent attendre votre vin. Qu'est-ce qu'on peut imaginer?
Ils sont de plaisir immédiat, mais parfois ils attendent. Le blanc il est iodé, le rouge il est fruité. Et sont des vins, mais évidemment ce sont les miens, alors moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Déjà, on n'est pas très objectif, l'œil ne se regarde pas voir, je vous convie à le déguster, Et vous verrez que je ne raconte pas que des âneries.
Et aujourd'hui, donc, des bouteilles sont vendues en France, également hors de nos frontières. Alors, pour l'instant, c'est confidentiel parce que 3 hectares, c'est tout petit, Eric.
C'est tout petit, mais moi, j'ai pas fait ça pour le vendre, le vin. J'ai fait ça pour lui donner un nom, celui d'Alain Furbury, et j'ai fait ça pour le boire avec mes amis.
Ouais, c'est
donc,
suffit, quoi. Ouais.
Voilà, vous savez comment ça se passe, c'est la part des anges. Pour nous, les propriétaires, puisque, et c'est normal, c'est le viticulteur qui emporte la plus grande partie de la récolte, c'est normal, c'est le fruit de son travail. Et nous, il nous reste du vin qu'on partage et qu'on boit avec les copains. Et ça donne lieu à des soirées plutôt...
avec modération, attention.
Ben oui, mais forcément.
Attention,
mais tout se fait avec modération aujourd'hui.
Le vin français, là, qui est concurrencé par les vins étrangers, vous qui avez aussi beaucoup voyagé, vous pensez que l'avenir du vin français, il est encore positif, il est rose, si je puis dire, ou alors on va se faire bouffer par les autres?
Non, mais c'est pas possible qu'on se fasse bouffer, parce que y a une tradition, il y a une histoire, il y a une culture, et ceux qui font du vin ailleurs, en réalité, ils nous copient, ils nous imitent. C'est une évidence.
Donc le vin français, avec tous les terroirs, le Bordelais, la Bourgogne, le Roussillon...
C'est notre histoire, c'est notre histoire. Ouais. Voilà, et il y a des pays qui ont moins d'histoire, je pense aux États-Unis, qui produisent de très belles choses. J'ai goûté récemment des chardonnays californiens, c'est merveilleux, mais pardon, ça vaut pas les nôtres.
Oui, c'est ça, c'est votre meilleur
souvenir. Il y a ce petit supplément d'âme qu'on ne peut pas occulter.
Ouais, votre meilleur souvenir d'une dégustation, c'était quoi? À quel moment
je peux pas en parler, je peux pas en parler.
C'est vrai, c'est indécent à ce point-là. C'est... Côté gastronomie, vous avez les bonnes adresses, vous le conseillez, des bons restos que vous aimez, est-ce que vous, à titre personnel, vous cuisinez, par exemple?
Oui, moi je cuisine, oui.
Et votre plat favori, c'est quoi?
C'est spaghetti.
Spaghetti?
Oui.
Et alors, avec quoi on sert? Avec un collioure blanc, rouge, évidemment.
Mais ah sinon... ça dépend, évidemment, parce que ça va des palourdes, ouais, en passant par d'autres fruits de mer, et puis ensuite, il y a les sauces toscanes, qui sont des sauces à base de viande, et puis les sauces marchegiane. Moi, ma mère est issue de la région des Marques, et puis les sauces siciliennes, un peu plus pimentées, donc on
a le
choix.
Est-ce que vous aimez les vins italiens? Parce que franchement, ils sont délicieux,
j'aime
non?
beaucoup les vins italiens, oui. Il y a des Barolo qui sont magnifiques, il y a le Sassicaia qui est sublime, il y a quelques très belles choses. Oui, en Toscane, il y a des choses absolument sublimes. Oui, il y a des Chardonnays piémontais aussi qui sont de vraies merveilles.
Elle est belle, l'Europe du vin est belle. Hein.
Ah oui, oui, ah oui, formidablement belle, oui.
Bien les sûr. Bulles, c'est autant que les bulles ou vous n'êtes pas trop bulles?
Si, je suis bulle, mais peut-être pas au quotidien. Ça reste festif pour moi.
D'accord. Donc c'est une symbolique, pas forcément pour un dîner peut-être, mais c'est quand on a un événement à fêter, un événement heureux, Eric. Hein.
Ou une défaite à oublier. Ce qui arrive souvent dans mon quoi. Métier. Oui.
Et alors, sinon, les cognacs, les liqueurs, les armagnacs, tout ça, ça vous tente? Ou alors c'est avec grande modération?
Non, c'est le whisky écossais que j'ai découvert en allant chasser en Écosse. C'est un whisky très tourbé. Et là aussi, c'est une histoire et une tradition. Le reste, non, pas tellement.
Pas tellement, quoi. Et alors, on a quand même presque un tiers des Français qui ne boivent jamais de vin. Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour conclure, pour qu'ils goûtent au moins un verre de ce collioure blanc, avec quoi, du grenache blanc et du grenache gris, je suppose, ou alors du collioure rouge?
Bon, d'abord, la production n'est pas suffisamment importante pour qu'un quart des Français le goûtent. Mais non, c'est tellement triste de ne pas boire de vin. Vous savez, il y a quelque chose auquel je crois vraiment. Le vin est un désinhibiteur. C'est-à-dire que quand on a bu un peu, moi je parle de l'ivresse, hein, pas de l'ivrognerie, ça n'a aucun intérêt l'ivrognerie. Mais l'ivresse à la Blondin, par exemple, qui est une ivresse sublime. Ben, quand on a bu du vin, on se révèle.
Oui.
Et un type qui est un con quand il a bu, c'est un con quand il n'a pas bu, mais il le cache. Et un type qui est un brave type, qui est content, qui est convivial, qui est joyeux quand il a bu... Eh ben, c'est vraiment un mec sympa. Et c'est un révélateur. D'ailleurs, les Latins le disaient in vino veritas.
Exactement. Puis nous, on est plutôt in vino Sud Radio. Pour terminer, il paraît que vous serez du côté du théâtre de la Place de la Madeleine, au mois de décembre, là. Ça y est, on repart?
C'est ça, on repart. Comme en 14.
Merci beaucoup, monsieur Akitator, et longue vie à vos vins de collioure. In vino Sud Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour parler des vins nouveaux. Bah, faut le faire. C'est chaque année, c'est nouveau, non?
Oui, ça s'appelle un marronnier en termes journalistiques, mais c'est le moment de le faire et ça ne vous a pas échappé, chers auditeurs.
C'était cette
je
semaine.
Je pense que jeudi
ah oui,
passé,
jeudi,
il y a
oui,
deux
on
jours,
parle beaucoup, là.
Le c'était 21. La sortie des appellations oui. contre les nouveaux parce que les IGP et les vins de pays peuvent sortir un peu plus tôt.
Un mois avant.
C'est
du nouveau, quoi.
Ça, j'ai déjà oublié, mais les nouveaux, j'ai fait une dégustation assez large des Beaujolais nouveaux et Beaujolais villages nouveaux.
Alors, ils sont comment, David?
Eh bien, c'est une année à primeur. C'est-à-dire que les deux derniers millésimes, les deux millésimes précédents, 17 et 18, étaient des très beaux millésimes, mais plutôt des vins structurés de garde, qui va faire de très beaux Beaujolais et Beaujolais Village et les 7 crus, les 10 crus, pardon. Mais ce n'était pas une année très souple, enfin, c'était des années concentrées. 19 est beaucoup plus dans le profil type des vins primeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on recherche dans ces vins ? C'est du fruit et du fruit, avec une belle acidité pour le tenir. Pas de structure, pas d'extraction massive. Et je trouvais que ces vins étaient bien dans ce type-là. Alors, il faut savoir...
La banane, est-ce qu'il y a de la banane, David ?
Non, 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 il n'y a pas de banane. C'est fini, cette histoire de banane.
Ah, c'est fini, la banane.
Parce que l'histoire de banane dont tout le monde a parlé, c'était introduit par une levure sélectionnée qui donnait ces arômes un peu amyliques, proches de la banane fumée ou pas fumée. Ça, c'est une autre affaire. Je me souviens, quand j'étais étudiant, il y avait une rumeur qui circulait qu'il fallait fumer des peaux de banane pour avoir un effet secondaire. C'était évidemment apocryphe
c'est
comme
histoire.
C'est
beaucoup moins cher que d'autres produits bizarres.
Ouais, oui, c'est ça. Alors, je pense que c'était les producteurs de Martinique qui
avaient fait... Alors, revenons au sujet, David.
Alors,
revenons
au sujet, pardon. Donc, ces dégustations ont donné mes coups de cœur dont je vous parlerai, parce qu'il faut saluer les bons vignerons.
Bien sûr.
Alors, deux appellations peuvent faire des primeurs, Beaujolais et Beaujolais Nouveau. Je rappelle que les Ducrus ne peuvent pas faire, sous leur étiquette en tout cas, des vins nouveaux. Donc voilà les coups de cœur en Beaujolais. Château de Buffavant, ça vaut 6 euros, hein, c'est des vins. Emmanuel Fellow, qui a l'habitude de faire de très bons vins, je goûte ces Beaujolais normales, ils sont souvent excellents, 8 euros pour 120. Un gros coup de cœur pour un tout petit producteur qui n'a que 5 hectares, et qui fait une cuvée étonnante qui s'appelle Masai. Alors Masai, c'est le tribu en Kenya et en Tanzanie, ces grands chasseurs bergers. Je ne sais pas pourquoi il doit adorer ce pays-là. Le vigneron s'appelle David Large. Et c'est un peu plus cher, c'est 10 euros. C'est absolument sans sulfite rajouté. Je me méfie un tout petit peu parfois avec ces vins-là. Mais là, il était impeccable, net, précis. Absolument pas de déviance, il faut juste le conserver à des températures relativement fraîches, c'est-à-dire moins de 14. Moins de 14. En tout cas, le Beaujolais Nouveau, en général, on boit assez vite, donc ça devrait tenir. Excellent. Et puis, dernier coup de cœur en Beaujolais, et ça tombe bien, et c'est un hasard, parce que je les ai goûtés à l'aveugle, c'est une cuvée qui est vendue ici, chez Nicolas, fait par Jean, la maison Jean Laurent, excellent producteur, et sa cuvée non filtrée, absolument délicieux, un peu moins de 7 euros, 6,90 euros, quelque chose comme ça. Donc très recommandable. Ensuite, en village, on grimpe un peu, normalement les villages sont un petit peu plus structurés, très franchement, je n'ai pas constaté
pas si
une énorme différence, c'est un peu plus cher, certes, hein, 2 euros de plus. Château de Bruisard, château de Corcel, qui est fait par le... qui est propriétaire de la famille Richard, ce grand distributeur sur la région parisienne arrière. Très bon, aussi bien en Beaujolais qu'en village. Celui de Georges Dubœuf, j'ai trouvé très décent, à 7,50 euros. Et Emmanuel Fellow, encore une fois, il sort à 9 euros. Et pour finir, le domaine de Nugues à 8 euros. Alors, que dire des autres ? Parce que, alors, bien sûr, ils ont fait la fête. Il y avait des fêtes organisées. Beaujolais essaye de relancer un peu le Beaujolais nouveau.
Bon, ça, c'est plutôt très sympa, David, non ?
Et des fêtes dans toutes les grandes villes du monde. Il y avait, bien sûr, Lyon.
Ça marche toujours au Japon ?
Apparemment, ça marche toujours bien au Japon, mais il faudrait que ça se relance un peu. En tout cas, c'est des vins sympas, des vins auxquels on ne pense pas souvent, mais il faut les apprécier pour ceux qui y sont. Et après, goûter au printemps suivant les vins définitifs du Beaujolais. Mais il y a d'autres régions qu'il ne faut pas oublier, qui font des très bons vins. Je me souviens que Ardèche, Gaillac, et puis Touraine et Côte-du-Rhône se sont mis aussi sur le wagon des primeurs. Je les vois un peu moins aujourd'hui, mais j'en ai goûté un très bon de Touraine. Et il faut lui rendre hommage, c'est un maître dans le genre, Henri Marionnet, qui dans son Beaujolais village, vous voyez le lapsus, c'est fait avec du Gamay, donc c'est le même cépage.
Gamay plus Gamay.
Gamay de Touraine de Henri Marionnet 19, c'est une pure délice.
Et
un vin sans sulfite.
Et même
sulfite.
Avec le temps, parce que j'ai goûté des vins Henri Marionnet récemment, et de 78 et même 73, son premier millésime.
Un Beaujolais, renouveau.
Vinifié en primeur, en Touraine primeur. Il y en a un, David, que vous n'avez pas cité, parce qu'on fait du blanc aussi, je pense au muscadet.
Ah oui.
Ça, c'est super intéressant.
J'ai oublié le muscadet. Ouais.
Moi, je travaille avec Sauvignon.
Muscadet nouveau, vous dites, Philippe.
Muscadet nouveau, c'est franchement super agréable, avec ce nez de poire, de pomme un peu acidulée, etc. C'est vraiment
très floral. Le Beaujolais,
c'est
muscadet.
C'est super intéressant. Hein.
Le Beaujolais et le Gamay de Touraine.
Et le Gamay de Touraine.
Un petit coup de cœur dans les Beaujolais que j'ai goûté pour cette année. Gilles Jelin, qui fait des fleuries aussi, des morgons magnifiques, qui fait un
un Beaujolais village primeur qui est juste...
Excellent. Bon, merci David, merci également à vous Hélène, Philippe et Eric Dupont-Moretti. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain. Demain, 12h30 précise, pour une nouvelle émission, nous serons toujours en public et délocalisés chez Nicolas à Paris, le caviste fondé en 1822. On va en parler d'un film super, L'âme du vin. On va aller découvrir le Jurançon. On parlera du Pinot Noir d'Alsace et puis on aura des bonnes adresses de tables d'hôtes sympas et de chambres d'hôtes sympas dans les vignobles. D'ici là, excellent déjeuner, c'est le moment. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.
Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.